du pain sur la table.
Dialogue autour de l'évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le cinquième dimanche de Pâques. Alors, quand Judas sort, Jésus dit :
Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera en lui-même, et voici qu'il va le glorifier. Petits enfants, encore un peu de temps je suis avec vous. Vous me chercherez. De même que j'ai dit aux Judéens : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un précepte nouveau. Aimez-vous de bonté les uns les autres, comme je vous ai aimé de bonté, pour que vous vous aimiez de bonté les uns les autres. En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez un amour de bonté les uns pour les autres. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Voilà des paroles qui ont souvent permis de réduire le christianisme au slogan de l'amour du prochain. Il n'est certes pas faux de dire que l'amour du prochain est inscrit dans l'être chrétien. Mais il faut aussi préciser de quel amour on parle.
Alors le contexte, eh bien notre récit se situe dans le prolongement du lavement des pieds lors du dernier repas de Jésus. On peut décrire cet épisode comme un premier discours d'adieu jusqu'au verset 31 du chapitre 14. L'appellation « petits-enfants » est fréquente dans ces récits où un patriarche mourant fait ses dernières recommandations à ses enfants. Et pourtant, le monologue de Jésus sera plusieurs fois interrompu par les questions de ses disciples, ce qui est inhabituel dans le style des discours d'adieu. Habituellement, les enfants ne posent pas de questions à leur père mourant.
Alors, quand Judas sort, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié ».
Quel lien peut-il y avoir entre cette sortie de Judas et la glorification du Fils de l'homme ? Eh bien, tentons de mieux cerner le sens des mots employés ici, « glorification » et « Fils de l'homme ». Il semble bien que ce soit Jésus lui-même qui ait choisi de s'appeler le Fils de l'homme. L'expression se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 7, versets 13 et 14, où un Fils de l'homme vient sur les nuées des cieux pour recevoir de Dieu gloire et royauté.
Je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur les nuées des cieux venait comme un Fils d'homme. Il lui fut donné souveraineté et gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient.
Il y a d'autres passages du récit évangélique de Jean où l'on retrouve l'expression « fils de l'homme ». Évoquons quelques-uns d'entre eux.
Vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié.
Dans les récits synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, cette affirmation du Fils de l'homme dans la gloire de Dieu va servir de motif à la condamnation à mort de Jésus par le Sanhédrin.
Le grand prêtre interrogeait Jésus : « Es-tu le Messie, le Fils du Béni ?» Jésus dit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées des cieux. » Le grand prêtre déchira ses vêtements. « Vous avez entendu le blasphème ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort.
Et ce sera aussi sur cette affirmation faite devant le Sanhédrin qu'Étienne sera lapidé.
Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et l'entraînèrent hors de la ville pour le lapider.
Eh bien, tous ces textes manifestent le lien très fort entre le Fils de l'homme et Dieu. Le récit de Jean traduit cela d'une façon explicite. « Nous te lapidons pour un blasphème parce que toi, un homme, tu te fais Dieu. » La gloire de Dieu et celle de Jésus comme Fils de l'homme sont donc étroitement associées. Mais que signifie dans le langage biblique la gloire? Eh bien, le mot hébreu qu'on traduit en français par gloire est le mot kabod, dont la racine évoque l'idée de poids. Il s'agit donc de tout le poids de la présence de quelqu'un, une présence qui va bien sûr se traduire par des actes. Pour Dieu, cette gloire se manifeste par sa toute-puissance, une toute-puissance agissante. Dans la Bible, lorsque Dieu permet à son peuple d'être victorieux de ses ennemis, on dit précisément qu'il manifeste sa gloire, il a agi avec son peuple. Or, dans la vie de Jésus, la gloire de Dieu est souvent reliée à la mort du Fils de l'homme. Luc fera explicitement ce lien entre la gloire et la mort de Jésus sur la croix. Ne fallait-il pas, trouve-t-on dans le livre de Luc au chapitre 24, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffre pour entrer dans sa gloire? N'est-ce pas aussi ce que veut dire Jean lorsqu'il semble associer la sortie de Judas et la glorification de Jésus? Quand Judas sort, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié ». Alors comment comprendre ce lien entre la mort et la gloire? Dans le récit évangélique de Jean, c'est souvent l'heure de Jésus qui va traduire le lien entre mort et gloire. Dans la grande prière qui conclut le dernier repas, Jésus s'écrit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie ». Or, l'heure de Jésus, c'est justement celle de la mort. Le chapitre 13 avait commencé par ces mots empreints de solennité, « Jésus, sachant que son heure est venue de passer de ce monde au Père ». S'il y a un lien fort entre la mort de Jésus et sa gloire, n'est-ce pas parce que sa mort va être essentiellement une mort par amour, qu'elle va traduire tout l'amour qu'il y a dans le cœur de Jésus? La suite du verset le dit.
« Jésus, sachant que son heure est venue de passer de ce monde au Père », lui qui a aimé les siens va les aimer jusqu'à l'extrême.
Ce lien entre l'amour et la mort se trouvera traduit clairement par Jésus lui-même. Personne n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Tous les récits du dernier repas vont faire le lien entre l'amour de Jésus pour les siens et sa mort. Le lavement des pieds et le geste de pardon de Jésus, spécialement envers Pierre qui va le renier. « Pierre, si je ne te lave pas, tu n'as pas part avec moi. » C'est-à-dire, si je ne te pardonne pas déjà ton reniement, tu ne seras pas en communion avec moi. Dans les milieux rabbiniques, on sait qu'il pouvait arriver que le disciple marque sa dévotion, son affection envers son maître, en lui lavant les pieds. Jésus, lui, inverse la situation. Lui qui est le maître va laver les pieds de ses disciples. Mais Jésus va aussi partager son pain avec Judas. Or, dans la tradition des pays de la Bible, le geste de rompre le pain avec quelqu'un est un signe d'amitié sacrée. Rompre le pain avec Judas est donc pour Jésus un geste de pardon, comme l'indique le texte, qui relie ce partage du pain et la trahison. C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entre en Judas. Le récit marque bien que Judas trahit celui qui est son maître et son ami, celui qui mange le pain avec moi a levé contre moi le talon. Ces gestes de Jésus signifient donc que Jésus va vivre la défection des siens, non pas dans le ressentiment et l'amertume, mais avec un cœur rempli de pardon et d'amour. Parce qu'il vit l'hostilité, le reniement, la trahison, en se livrant par amour, Jésus témoigne donc de l'amour de Dieu qui vit en lui. Il est glorifié et il glorifie le Père. Il entre dans la gloire, c'est-à-dire il manifeste l'amour de son cœur. Et le Père est glorifié en lui, car l'amour vrai vient du Père qui est source de tout amour. En cette mort acceptée, en cette mort qui n'est pas simplement la fin de sa vie, mais la plénitude de l'amour qui rayonne dans son cœur, l'amour divin va dire toute la force de pardon et de guérison qu'il y a dans le cœur de Yeshua, de Jésus. C'est donc bien la présence tout aimante de Dieu, la gloire de Dieu, qui se trouve manifestée dans les gestes de Jésus qui entoure sa mort.
Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je ne fais rien de moi-même, mais qu'ainsi je dis et fais tout ce que le Père m'a enseigné.
Dans la nudité de la croix, là où il n'y a plus que l'amour à offrir en partage, Jésus nous montre le vrai visage de Dieu, d'un Dieu qui est amour, qui n'est qu'amour et pardon. C'est ainsi qu'il glorifie Dieu.
Je vous donne un précepte nouveau, aimez-vous.
Comment comprendre que ce soit là un précepte nouveau, une nouveauté? Le livre du Lévitique appelait déjà à aimer son prochain comme soi-même. En quoi Jésus peut-il donc dire qu'il donne un commandement nouveau à ses disciples? D'ailleurs, faut-il traduire le mot grec « antolé » par « commandement » car le mot hébreu, qui est sans doute à l'origine de ce mot grec, est celui de « mitzvah », et ce terme hébreu désigne un exercice que Dieu propose à son peuple pour ramener sa présence sur la terre, pour, comme dit Jean-Yves Leloup, saturer le quotidien d'éternel. Ce qui doit être vécu par les disciples, c'est donc l'amour dont Dieu aime, sa façon même d'aimer, et cela afin que l'amour éternel transforme le monde. Jésus ne dit pas seulement « aimez-vous », mais il ajoute « comme je vous aime ». Le mot « comme » est fréquent dans le récit de Jean. Citons quelques exemples pour bien en saisir toute la portée.
« Moi aussi je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Si vous gardez mes préceptes, vous demeurez dans mon amour, comme je garde les préceptes de mon Père. Je connais mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. »
Il s'agit donc d'aimer à la manière de Dieu, d'aimer par son amour même qui est accueilli en nous pour que nous puissions le redonner. Le verbe « aimer » qui est employé ici est un verbe grec « agapao ». Il y a plusieurs mots grecs pour traduire « aimer ». « Eros » qui désigne un amour de désir, « philia » qui traduit l'amour d'amitié, l'amour réciproque. Mais il y a un mot, d'une certaine manière, nouveau pour traduire l'amour de gratuité, pour traduire ce que nous appelons la grâce, c'est « agapé ». Jésus emploie ce mot pour proposer à ses disciples d'aimer comme lui, lui qui aime comme le Père. Jésus ne nous commande pas d'être amoureux les uns des autres, de nous désirer avec passion, d'avoir une amitié. Il ne nous demande pas de nous forcer à être l'ami de nos ennemis. Il parle d'agapé, c'est-à-dire d'acceptation sans retour inconditionnelle de l'autre, quel qu'il soit, tel qu'il est. L'aimer non pas pour soi, mais aimer l'autre pour lui-même. Vouloir ce qu'il est, vouloir son indépendance, sa liberté, et surtout son salut, qui est libération de tout ce qui l'opprime et le fait souffrir, de tout ce qui empêche son cœur et son intelligence de vivre au large. Devant l'exigence de cet amour agapé, on peut comprendre qu'il nous faut communier à la force même de Jésus pour aimer comme lui. Aimer comme lui, aimer comme le Père, c'est d'abord et surtout aimer par lui, avec lui et en lui.
En quoi ce précepte de l'amour est-il nouveau?
On pourrait dire que la Bible de Moïse enseignait déjà un tel amour. Mais comme le récit de Matthieu semble le dire, Jésus renouvelle la Torah orale.
Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et moi je vous dis, « Aimez vos ennemis. »
Est-ce un précepte nouveau, en ce sens qu'il faut aimer comme Dieu, comme Jésus, alors que la Torah enseignerait à aimer son prochain comme soi-même? La première lettre de Jean demande aux disciples d'aimer jusqu'à l'extrême comme le Maître. « Lui a donné sa vie pour nous, » dit Jean. « Aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Est-ce un précepte nouveau parce qu'il permet le renouvellement du cœur par une vie plus intérieure, comme les prophètes l'annonçaient déjà, écoutant Jérémie et Ézéchiel?
Des jours viennent où je conclurai une nouvelle alliance avec la communauté d'Israël. Je déposerai mes préceptes au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors, vous suivrez mes préceptes et y serez fidèles.
Ajoutons qu'aimer Dieu ou le prochain doit toujours être un acte neuf, comme si on aimait pour une première fois, car on n'aime pas vraiment si le geste d'amour est devenu répétitif, une répétition passive. Madeleine Delbrel traduisait ainsi cette nouveauté.
« Je te souhaite un amour neuf, venu droit de Dieu, allant droit aux autres, ne se souvenant d'aucun déjà dit, d'aucun déjà fait. »
Mais on peut aussi relier cette nouveauté à ce qui sera le signe distinctif des disciples de Jésus.
En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez un amour de bonté les uns pour les autres.
Le signe de l'appartenance au peuple d'Israël était la circoncision. Eh bien, pour le nouveau peuple que Jésus rassemble, le signe qui manifestera l'appartenance sera l'amour fraternel. Alors que la Torah de Moïse comporte des préceptes qui, d'une certaine manière, établissent des barrières entre les humains, comme la circoncision, l'interdiction de manger certaines viandes, cela fait une séparation entre les Juifs et ceux qui ne le sont pas. Le signe de l'assemblée du Christ est au contraire un amour sans condition, un amour qui peut être vécu par tout être humain. L'apôtre Paul explicite cela pour les Galates. « Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, écrit-il, mais la nouvelle création. » Et aux Éphésiens, Paul parle d'un être humain nouveau.
Christ a aboli la loi et ses commandements avec leur observance. Il a voulu ainsi créer en lui un seul être humain nouveau. C'est grâce à lui que les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père par un seul esprit.
La pratique chrétienne de la fraternité serait nouvelle parce qu'elle crée précisément un être nouveau. Un être qui vit dans une communauté qui doit être sans frontières ethniques, raciales, sexistes, sociales. Paul va se faire le véritable héros de cette assemblée nouvelle qui est ouverte à tous.
Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Tous, en effet, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus.
Dans l'assemblée chrétienne du peuple de Dieu, personne ne doit être marginalisé. Les pauvres, les malades, les handicapés doivent au contraire avoir une place prioritaire.
Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de savants aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de noble famille.
Pour être le signe des disciples, cet amour fraternel doit être visible. Il doit réellement unir les disciples en une vraie communauté de solidarité. Donc, pour les disciples de Jésus, la réalisation de vraies communautés fraternelles ne sera pas facultative. C'est la solidarité de frères et de sœurs s'aimant les uns les autres qui est le signe témoin, signe que ces hommes et ces femmes sont disciples de Jésus, signe aussi que ce Jésus est toujours présent au milieu des siens par l'amour qu'il fait vivre. Il y a une expression qu'il faut remarquer, les uns les autres. La première lettre de Jean reprend fréquemment cette expression.
Tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Mais bien-aimés, et si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.
Paul, lui, reprendra, j'allais dire, presque à l'infini cette expression. Relevons quelques citations seulement, pour bien saisir tout le réalisme de cet amour fraternel qui est demandé aux chrétiens.
Soyez accueillants les uns pour les autres. Mettez-vous au service les uns des autres par l'amour gratuit. Portez les fardeaux les uns des autres. Réconfortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre. Soyez en paix les uns avec les autres. Faites du bien les uns aux autres. Montrez-vous bons et compatissants les uns pour les autres. Pardonnez-vous les uns aux autres. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Mais nous vous encourageons à faire encore des progrès.
Ainsi, c'est à l'intérieur d'une communauté très concrète, à taille de fraternité, que le chrétien, le disciple de Jésus, est appelé à faire l'expérience de la pratique de l'amour gratuit, un amour qui est accueil, service, entraide, pardon. Non que cet amour d'ailleurs se limite à ceux qui sont les disciples du Christ, les compagnons de foi en Christ. L'amour du prochain doit s'étendre à tout être qui est dans le besoin, même l'ennemi. Mais parce que la communauté chrétienne sera le laboratoire où s'apprend et où se vérifie quotidiennement l'amour gratuit. Au sein de la communauté chrétienne, nous laisserons le Christ nous aimer et nous nous aimerons les uns les autres pour aller ensemble, les uns avec les autres, aimer tous ceux avec qui nous vivons chaque jour. Pour vivre entre chrétiens ce signe, ce témoignage de l'amour de bonté, de véritables communautés de disciples de Jésus sont nécessaires. Or, la paroisse d'aujourd'hui, la plupart du temps, n'est plus à taille de communauté. Oh, il ne s'agit pas de négligence, de mauvaise volonté des chrétiens qui composent l'assemblée paroissiale, mais il s'agit de la structure actuelle de la paroisse dans un monde urbain. Comme il n'y a plus, la plupart du temps, dans les villes, de communautés qui soient rassemblées par le territoire, les paroisses sont devenues surtout des lieux qui n'offrent plus que des services religieux à des individus. Les églises urbaines doivent donc refaire, reconstituer des communautés, si l'on veut que les disciples de Jésus retrouvent des milieux fraternels où ils pourront vivre cet apprentissage de l'amour gratuit. Or, dans la grande tradition de la Bible, c'est autour des repas sacrés, que se sont construites les familles églises. Jésus a célébré ces repas avec ses disciples. Après Pâques, les premières communautés, en effet, se sont tissés autour de la fraction du pain, du repas fraternel.
Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun.
Oui, ce texte du chapitre 2 des Actes est devenu un grand texte, souvent repris par le Concile Vatican II. Eh bien, il nous faut retrouver la coutume de ces repas sacrés où la communauté de table se réalise par le partage du pain, mais aussi par le partage de la parole évangélique. Il appartient aux chrétiens et aux chrétiennes d'aujourd'hui de créer ces repas qui pourront rassembler dans des maisons privées une douzaine, une quinzaine de disciples qui deviendront ainsi des frères et sœurs autour du Christ Jésus. Du renouveau de ces repas sacrés dépend sans doute l'avenir de notre Église. Cet amour gratuit qui nous fait frères et sœurs, le langage chrétien traditionnel l'appelait charité. On a malheureusement déprécier le mot en parlant de faire la charité au sens de faire l'aumône. On ne fait pas la charité. On est charitable. On est vivant de charité. Il nous faut redonner au mot charité son sens premier, qui est l'amour humain, pétri d'amour divin, comme le disait Madeleine Delbrel.
La charité est plus que le nécessaire pour exister, plus que le nécessaire pour vivre, plus que le nécessaire pour agir. La charité est notre vie devenant vie éternelle.
Parce qu'elle est participation à l'amour même dont Dieu aime. Les disciples de Jésus doivent puiser cette charité dans le cœur même de Jésus.
On n'apprend pas la charité. On fait peu à peu sa connaissance en faisant la connaissance du Christ. C'est la foi du Christ qui nous rend capables de charité. C'est la vie du Christ qui nous montre comment désirer, demander, recevoir la charité. C'est l'Esprit du Christ qui nous rend vivants de charité.
À la place du mot « charité », qui est un peu déprécié, relisons le texte en mettant la bonté. On n'apprend pas la bonté, on fait à peu sa connaissance en faisant la connaissance du Christ. C'est la foi du Christ qui nous rend capables de bonté. C'est la vie du Christ qui nous montre comment désirer, demander, recevoir la bonté. C'est l'Esprit du Christ qui nous rend vivants de bonté. Les chrétiens de ce nouveau millénaire pourront-ils reprendre en vérité ce qu'on disait des chrétiens au temps de Tertullien ? Voyez comme ils s'aiment. Nous ne pourrons le faire qu'en recréant de petites communautés fraternelles autour de la figure du Christ Jésus.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Le numéro 256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Voici l'adresse de notre site www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. relaismontroyal.com. Vous pouvez également vous abonner, soit au feuillet, soit aux cassettes. Téléphonez-nous, 256-4110, et nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.